have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia à la présentation ce soir. Les États-Unis ont convié l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan à une rencontre à Washington pour tenter de résoudre la crise née de la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil. Ce vaste projet lancé par Addis Abeba est achevé à 70%. Ce projet contesté par le Caire qui craint une forte baisse de ses ressources en eau. Le premier ministre éthiopien a déclaré qu'aucune force ne pourrait empêcher l'Éthiopie de construire ce barrage. En Égypte, des déclarations belliqueuses sont également notées dans certains milieux. Alors faut-il craindre un affrontement militaire? Quelle solution pour faire baisser la tension et trouver une solution acceptable pour tous? Également, la médiation américaine a-t-elle des chances de réussir? Pour parler de tout cela, nous avons trois invités. Ici, dans la région de Washington, Herman Cohen, ancien sous-secrétaire américain aux affaires africaines. Nous avons également Younes Benfella, enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Est Créteil, et Athanase Karienga, analyste politique depuis Paris. Monsieur, bonsoir, merci d'avoir accepté d'être avec nous.
Bonsoir.
Oui, je commence avec vous, Herman Cohen. Pourquoi Washington a décidé de s'impliquer en conviant les trois pays à une rencontre le mois prochain ici à Washington?
C'est facile. Washington, États-Unis n'a rien dans cette affaire, donc Washington n'a pas d'intérêt dans cette affaire, donc États-Unis est neutre. Et deuxièmement, nous avons une grande connaissance historique des disputes comme ça, parce que nous partageons des fleuves avec plusieurs fleuves avec le Canada et aussi avec le Mexique. Et nous sommes arrivés à faire des compromis avec ces deux. Nous connaissons les moyens et nous avons une grande expérience sur la technologie, des barrages, etc. Donc, ce sera une très bonne choix d'avoir les États-Unis comme médiateur.
D'accord. Alors, Younes, il y avait une réunion déjà tripartite récemment, une réunion qui s'est terminée sans accord. Vous pensez que cette fois-ci, il pourrait y avoir des progrès, d'autant plus que c'est l'Égypte qui a manifesté le désir d'avoir des pays comme les États-Unis s'impliquer?
Effectivement, les dernières négociations entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie début octobre à Khartoum ont abouti à une impasse. Et je crois qu'une médiation américaine a toutes les chances de réussir parce que les pays qui sont concernés par cette affaire ont des bonnes relations avec les États-Unis. Mais ça montre également qu'il y a un échec au niveau de l'Union africaine parce que cette organisation n'a pas réussi avec tous les mécanismes ou tous les mécanismes nécessaire à trouver une solution, à faire une proposition de médiation entre des pays africains concernés par une affaire qu'on peut dire une affaire qui reste très très locale. Et je crois que là maintenant on est face à une internationalisation en fin de compte du conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie. Et c'est un conflit qui a également une histoire. C'est pas moi, je trouve que on parle du côté du barrage, mais je crois que c'est quelque chose seulement technique, c'est le côté technique du conflit. Il y a également d'autres intérêts et d'autres enjeux sur le plan géopolitique entre les deux pays. Et il faut revenir que le contexte, en fin de compte, de ce conflit a commencé à partir de 2010 avec l'accord à Ouganda. Effectivement, qui était un accord à l'exception de l'Égypte et du Soudan. Il a réuni tous les pays qui sont concernés par le Nil et qui voulait en quelque sorte finir avec cette monopolisation de l'Égypte. L'Égypte qui a une part de 55,5 milliards mètres cubes annuellement. Donc, ce qui fait que ça, c'est c'est un conflit qui est en dehors de la question, on va dire, technique sur le barrage, d'ailleurs, qui ne concerne pas seulement la question de l'eau, mais il est fait pour des fins électriques. C'est un barrage qu'on peut le considérer dans le cadre hydroélectrique pour l'Éthiopie. Et je crois qu'il y a des propositions qui peuvent être amenées par les États-Unis pour trouver une solution sur cette question du barrage entre l'Éthiopie et l'Égypte.
D'accord, on pourra revenir sur cela. Athanase, l'Égypte revendique un droit historique sur le Nil, tandis que l'Éthiopie dit avoir également le droit de construire ce barrage sur le Nil bleu qui prend sa source d'ailleurs en Éthiopie. Pourquoi aujourd'hui seulement, alors qu'il y a déjà des traités internationaux pour régler tout cela?
Vous savez, je crois qu'il y a une organisation mondiale des bassins d'eau partagés qui existe déjà, qui gère des espaces d'eau partagés comme par exemple le lac Léman entre la Suisse et la France, le Grand Lac entre le Canada et les États-Unis, ce sont des exemples de bonne gestion entre pays voisins. Mais nous connaissons aussi malheureusement des zones dans le monde où le partage des zones est conflictuel. Le conflit entre l'Éthiopie et l'Égypte à partir de ce barrage n'est pas du tout surprenant. Nous connaissons des tensions très vives, notamment entre Israël et la Palestine, et le Golan, la Syrie. Il y a évidemment aussi une question très, 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 très grave qui s'oppose à la gestion de la vallée de l'Euphrate, par exemple, entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Donc, ce n'est pas exceptionnel que ce pays soit en conflit ou même
voilà, l'eau est souvent source de conflits. Hein. Merci. On va peut-être essayer de vous rappeler, Athanase, pour voir si on peut avoir une meilleure connexion. Herman Cohen, en fait, dans un communiqué, la présidence égyptienne a appelé les États-Unis donc à jouer un rôle actif pour résoudre ce différend, affirmant la nécessaire intervention d'un autre pays, un pays tiers, comme le disait plutôt Younes Belfella. Vous pensez que, en fait, pourquoi en fait on n'entend pas l'Union africaine, comme le disait aussi Belfella dans un conflit pareil? Est-ce que c'est lié peut-être au fait que c'est le président Sisi qui assure aujourd'hui la présidence de l'Union africaine?
Non, je crois que l'Union africaine a déjà fait beaucoup de bon travail dans la médiation de conflits en Afrique, c'est-à-dire des conflits civils. Je parle de la Guinée, je parle du Mali. L'Union africaine a fait un très bon travail, mais dans ce cas-là, quand il s'agit des anciens traités, beaucoup de technologies, etc., Je crois que l'Union africaine n'a pas l'expertise nécessaire. Donc, il faut trouver des pays comme les États-Unis, le Canada, qui a vraiment l'expertise nécessaire pour trouver de bonnes solutions et pour aussi expliquer pourquoi certaines pratiques ne sont pas égales.
D'accord. Je crois qu'on va prendre un auditeur pour voir un peu ce qu'en pensent nos auditeurs. Aziz Younga est au Burkina Faso. Aziz, bonsoir.
Bonsoir, VOA Afrique. Bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Alors, vous, dans votre commentaire, vous ne semblez pas très, très optimiste, hein?
Oui, parce que, bon, selon moi, je pense que ce problème doit être résolu de façon bilatérale, c'est-à-dire entre les deux protagonistes. Voilà, je pense que ces deux sont censés vraiment trouver une solution à leurs problèmes, parce que c'est un problème qui doit résoudre de façon diplomatique. Donc, c'est une façon de venir à bout des problèmes. Sinon, l'expertise américaine, moi, je ne pense pas qu'elle soit vraiment la bienvenue dans cette affaire.
D'accord. D'accord, merci beaucoup Aziz. Younes Belfella, On a un auditeur qui pense que le problème doit être réglé entre les deux pays. Si c'était aussi simple, peut-être qu'on n'aurait pas besoin d'aller ailleurs. Ils ont déjà essayé, n'est-ce pas?
Tout à fait, exactement. Mais il faut prendre en considération qu'il y a plusieurs angles, on va dire, de discussion entre les deux pays. Il y a l'angle technique qui concerne le barrage. On a des déclarations sur que, par exemple, l'Éthiopie cherche à remplir, en fin de compte, ce barrage entre 4 à 7 ans. L'Égypte veut bien vraiment avoir plus, en près de 15 ans, pour ne pas influencer son débit. L'Égypte également exige une garantie d'un débit de 41 milliards de mètres cubes au moins par an. L'Éthiopie refuse de s'engager sur un chiffre, mais laisse entendre qu'elle pourrait accorder 30 milliards de mètres cubes. Et elle fait aussi valoir que le barrage lui permettra de produire de l'électricité profitant à toute la région et a fait alliance sur ce dossier avec son voisin en aval, le Soudan. Mais il y a un autre côté qui est géopolitique, qui est très intéressant. Il y a les deux pays sont concernés par un grand rôle sur la partie de la Corne d'Afrique, voire même sur tout le continent. Le profil des deux présidents, Sisi et Abiy Ahmed, qui ont un certain leadership, qui cherchent en quelque sorte à mettre la main sur la région, à jouer un rôle très important dans le continent africain, sont autant de points qui permettent en quelque sorte d'avoir une analyse plus globale sur cette question, sur ce conflit entre les deux pays. Mais ça n'empêche pas de penser dans un côté, on va dire, pragmatique. Il y a intérêt à mutualiser en quelque sorte les enjeux des deux pays sur cette question du barrage, soit par la participation de l'Égypte au financement de ce barrage, soit la participation de l'Égypte à la construction de certaines infrastructures, ou même voire à permettre en quelque sorte à l'Éthiopie d'avoir plus de marché, soit au niveau de l'Égypte, ou bien également à faire passer sa marchandise à travers le canal du Suez en Égypte. Donc ce qui fait que moi je trouve que la principale solution en quelque sorte, ou l'élément de réponse à ce conflit réside dans le fait de chercher une opportunité économique pour les deux pays, une opportunité de développement qui mettra à mutualiser les intérêts des deux pays sur cette question de barrage et qui peut vraiment faire en quelque sorte cette renaissance, le nom du barrage, faire une renaissance économique de cette partie du continent africain à travers des projets de développement. On a déjà d'autres expériences également dans le continent. Sinon, il y avait l'expérience entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais il y a également d'autres expériences ailleurs. Mais moi, je confirme par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la question de l'Union africaine, qui est vraiment un échec. On le voit pas seulement sur le dossier de l'Égypte et l'Éthiopie, mais on a d'autres conflits de frontières, ou par exemple le conflit du Sahara entre le Maroc et l'Algérie. On a d'autres conflits sur certaines parties du continent où l'Union africaine n'a pas jusqu'à maintenant les moyens de mettre en place des mécanismes qui sont spécialisés sur la question de gestion de conflits.
D'accord, merci beaucoup Younes Belfella. Alors, on a retrouvé Athanase. Athanase, d'autres pays sont aussi concernés, notamment ceux des Grands Lacs ou ce qu'on appelle les États d'amont, mais on ne les entend pas. Il y a le Burundi qui, par exemple, a signé le traité de 2010 sur le partage des eaux du Nil, ce qui a d'ailleurs permis son entrée en vigueur. Pourquoi ces pays sont absents dans ce débat?
Ma communication a été coupée, je ne sais pas où j'en étais, mais j'étais en train de dire précisément qu'il faut voir le problème de la gestion de la vallée du Nil dans toute sa globalité, depuis le Burundi jusqu'à Alexandrie, pour ne pas dire en Égypte, parce que, à titre d'exemple, le Burundi, le Rwanda et la Tanzanie envisage de construire un barrage sur la vallée sud du Nil, le barrage de la Rusumo. L'Ouganda a déjà construit un barrage à la sortie du lac Victoria, qui fait partie évidemment du parcours du fleuve Nil. L'Éthiopie a construit aussi un barrage, mais l'Égypte en a construit il y a plusieurs années. Il y a le lac Nasser qui fait 500 km, qui est construit au nord du Soudan et qui se place entre le Soudan et l'Égypte.
Mais Athanase, il faut, vous m'entendez? Est-ce que l'inquiétude ne se trouve pas justement au niveau de la taille de ce projet, de, disons, du barrage de la Renaissance, 6000 mégawatts, le plus grand barrage hydraulique? Est-ce que c'est pas ça le problème?
Non, le problème n'est pas là du tout. Le problème, c'est qu'il y a de toute façon une pénurie d'eau dans la perspective notamment du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de pays, comme je le disais tout à l'heure, qui sont aussi dans une sorte de détresse hydrique. On voit très bien les mêmes conflits apparaître entre Israël et la Palestine, entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. Il ne faut pas isoler ce problème de la vallée du Nil, il faut le voir dans la globalité, il faut voir la gestion du fleuve Amazon, il faut voir le Mekong, comment il est géré, il faut voir comment le Zambèze est géré. Il y a des modèles, il ne faut pas isoler le problème du Nil et en faire une exception. En plus, il y a des organisations internationales qui sont prévues pour aider les pays à co-gérer, comme dit ce monsieur. Il y a moyen de co-gérer les ressources ensemble, mais il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose qui peut se régler entre l'Éthiopie et l'Égypte. Il faut voir l'ensemble de la vallée du Nil, les 6000 kilomètres de la vallée du Nil.
D'accord. On va prendre un deuxième auditeur. Elie Essou, vous êtes au Bénin. Elie, bonsoir.
Oui, bonsoir VOA Afrique. Bonsoir à tous les auditeurs de cette émission ce soir.
Alors, on vous écoute. Quel est votre point de vue sur cette question?
Alors, mon point de vue est vraiment partagé. Je pense que si les pays africains ont un différend entre eux, je vous dis la vérité, ce n'est pas aux Occidentaux, précisément à l'Amérique, de venir jouer la médiation. Parce que quand lui va jouer dans sa médiation, je pense pas que ça serait une médiation neutre, mais ce ne serait pas impartial dans sa médiation, mais il doit peut-être supporter un pays, ce qui ne va pas avantager d'autres pays.
N'oublions pas que c'est l'Égypte qui a sollicité la médiation des États-Unis et même de la Russie dans ce dossier.
Alors, si à mon avis, ce que je peux penser, c'est que ça soit impartial. Que l'Amérique joue un rôle impartial, que l'Amérique ne supporte pas un pays, mais que ce soit impartial plutôt dans sa médiation. Pour ne pas imposer son veto à n'importe quel pays.
D'accord. Merci beaucoup, Elie Essou, depuis le Bénin. Je lis également ce commentaire de Moi Cissé qui dit c'est une bonne chose que les États-Unis accueillent ces pays, mais c'est l'Union africaine qui devrait être la première organisation à jouer la médiation entre pays africains. Les deux parties doivent se concerter pour trouver une solution à l'amiable, car l'eau est source de vie. Justement, Herman Cohen, cet auditeur parle de l'eau source de vie. En fait, la question de l'eau est souvent également source de conflits et de tensions diplomatiques, n'est-ce pas? On a vu aussi Israël avec ses voisins.
Oui, avec la Jordanie, oui. L'eau est essentielle pour la vie. Donc, s'il y a une source d'eau partagée par plusieurs nationalités, plusieurs pays, il y a toujours une possibilité de conflit. À mon avis, il y a des solutions. Par exemple, l'Éthiopie va produire 6000 mégawatts d'électricité. Pourquoi pas vendre 1000 ou 1500 mégawatts à l'Égypte, gagner de l'argent avec ça? Et l'Éthiopie n'a pas besoin vraiment de faire l'irrigation parce que le barrage sera sur la frontière du Soudan. Donc, ils ne peuvent pas utiliser cette eau pour irrigation. Et je ne comprends pas pourquoi toute l'eau ne doit pas passer jusqu'à l'Égypte après avoir fait l'électricité. Mais il y a beaucoup de possibilités de compromis. Et avec son expérience, les États-Unis sont dans une très bonne position d'aider les deux côtés.
D'accord. Alors, beaucoup de possibilités, effectivement, mais on a vu aussi des discours musclés, n'est-ce pas, Younes Benfella. Quelle est votre inquiétude par rapport à cela? Parce qu'il y a un certain nationalisme aussi qui est de mise.
Bah,
effectivement, on a entendu même un scénario militaire, surtout dans les médias des deux pays. Même l'Éthiopie, récemment, il y avait une déclaration du président qui dit qu'il faut mobiliser des millions de jeunes pour garder au cas où le différend sur ce barrage déraperait en conflit armé avec l'Égypte. Moi, je crois que pour les Égyptiens, il y a un double discours. Il y a un discours qui est très très ferme au niveau du ministère des Affaires étrangères et qui n'est pas d'ailleurs apprécié par l'Éthiopie. Il y a un autre discours qui reste assez pacifique par le président. D'ailleurs, il y avait une rencontre cette semaine en aparté du sommet Russie à Afrique. Il y a quand même, en quelque sorte, une volonté d'avoir des négociations, ce qui est une très très bonne chose pour la suite. Mais je crois que le scénario militaire n'a pas de place actuellement. Il y a une volonté pour concrétiser en quelque sorte des négociations et pour avoir un accord historique entre l'Éthiopie et entre l'Égypte. Mais il faut impliquer des éléments de développement, des éléments économiques qui ont la capacité à convaincre les deux pays. Et à la place du conflit, il faut chercher en quelque sorte l'opportunité. Les États-Unis, c'est un grand pays. En fin de compte, il y a tous les moyens pour mettre en place ou pour planter le décor de négociations, pour garantir les intérêts des deux pays et pour garder la stabilité dans cette région qui est très très sensible, la région de la corne d'Afrique, surtout avec toutes les tensions qui sont dans le Moyen-Orient, voire dans les pays du Golfe. Et ça sera intéressant d'avoir un accord qui peut vraiment inspirer les autres pays du continent africain à prévaloir la question de la discussion, de négociation, de dialogue à la place de la question du conflit ou de la guerre.
D'accord. Alors, Athanase, est-ce qu'il faut, au-delà même de ces infrastructures qu'il faudrait peut-être partager, comme vous le disiez, vendre l'électricité, pourquoi pas, à d'autres pays, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir cette question des quotas, en fait, avec l'accord signé entre le Caire et la Grande-Bretagne, qui était la puissance de l'époque? En fait, il y avait la part du lion qui allait à l'Égypte et au Soudan. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être, dans les discussions, revoir ces quotas?
Absolument, il y a toute une philosophie coloniale qui s'était installée et l'Égypte a vécu longtemps avec son capital d'une protection juridique, mais coloniale. Et il faut voir que tous ces pays, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui sont dans la vallée du Nil, ont très mal vécu cette suprématie égyptienne pendant des années sur la prétention de l'Égypte à réglementer toutes les infrastructures qui sont construisaient ou qu'on entrevoyait de construire sur toute la longueur de la vallée du Nil. Et les pays africains dont j'ai parlé tout à l'heure, les infrastructures entre le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, l'Ouganda et puis maintenant l'Éthiopie, se libèrent d'une certaine manière d'une tutelle présente, historiquement parlant, sur le Nil, une tutelle égyptienne. Et pour ça, il ne faut surtout pas mettre en avant l'argument militaire, l'argument de la force, parce que l'Égypte n'aura jamais les moyens de faire la guerre sur les 6000 km de la vallée du Nil. Mais par contre, des joint ventures, oui, pourquoi pas, des barrages co-gérés, pourquoi pas, des bassins étudiés ensemble pour qu'ils arrosent et qu'ils profitent, surtout les bénéfices profitent à plusieurs pays, pourquoi pas. Je crois qu'il n'y a que des solutions.
Il y a plusieurs options.
D'accord. Absolument.
D'accord, merci. Merci beaucoup, Athanase. Alors, on va se quitter peut-être avec deux petits commentaires de nos auditeurs sur Facebook. Aaron Abalde depuis Dakar. Je dis bien oui, la médiation américaine pourrait régler cette crise si elle est impartiale. Ces pays ont la volonté de trouver un consensus. Et puis, Lamberson Chile, à Mbujimayi, en RDC. Sur le sujet-là, l'Union africaine ne fait rien et les États-Unis pourront réussir si la solution est trouvée d'abord par les pays pays concernés. Voilà, c'est la fin de cette émission L'Amérique et vous. À la mise en onde, il y avait Lionel Gaïma et Justin Twitt. Présentation, Abdourahman Dia. Merci à Herman Cohen, Younes Benfella et Athanase Karienga. Dans un instant, notre point sur l'actualité, une autre édition du Monde Aujourd'hui, présentée par Ekiabado. Excellent week-end. Au revoir.
VOA Afrique.